16. Paris qu'il fuyait, Paris l'attirait sans cesse. Comment en eût-il été autrement ? C'est à Paris qu'étaient ses amis, sa famille, ses admirateurs, ses librairies, son public, sa gloire, sa renommée, et, ajoutons, ses ennemis. Ennemis vrais, ennemis fictifs, mais qu'il confondait si bien qu'il s'en créait des légions et des armées. Et ses innombrables ennemis, un jour, il les provoquait en champ clos, il les appelait la lance au poing, il demandait à les combattre face à face. Un autre jour, plus calme, il se bornait à les couvrir d'un auguste mépris. Au fond, il se préoccupait beaucoup du moyen de les neutraliser par de l'habileté, de la politique, de la ruse, et surtout sans paraître trop personnellement tourmenté du désir de se les concilier. C'était pourtant son unique envie. On va le voir par le récit du singulier projet dont il me parla un jour, et dont je reçus le premier la confidence au fond d'un cabaret de Saint-Cloud où nous étions allés dîner. Avant d'entrer dans les détails d'un plan d'association qui a réellement existé et qui a duré plusieurs années, 3 années au moins, je rapporterai de ce déjeuner de Saint-Cloud une particularité, je crois, assez gaie. Elle a circulé plus tard de bouche en bouche avec la vogue d'un mensonge. Pourtant, elle est vraie de point en point. La voici. Le grand air, le vent matinal, la vue frétillante de la rivière, peut-être aussi le vieux préjugé qu'on doit avoir faim parce qu'on s'est levé de bonne heure, tout avait aiguisé l'appétit de Balzac. Ce jour-là, il avait la faim de grand gousier. Après avoir englouti, presque vivante, 2 belles côtelettes de mouton et une montagne dorée d'éperlans, il me parla ainsi. Avant d'attaquer le sujet de conversation qui nous rassemble ici, je voudrais me meubler l'estomac de quelques autres mets supplémentaires. C'était grave. Le souhait était naturel, mais peu facile à réaliser dans la localité riveraine de Saint-Cloud, où, une fois sorti de la côtelette de mouton, de la friture de goujon, de la classique matelote, on ne propose plus aux aubergistes qu'une énigme pleine d'inquiétude pour eux. Cependant, pour complaire à Balzac affamé, je cognais, avec l'angle fruste de mon robuste verre, le bois de la table rustique et court vêtue sur laquelle nous déjeunions. Et le fils de l'aubergiste monta 4 à 4 par l'escalier de sapin placé entre la cuisine et nous. Ici, question de Balzac et réponse faite à Balzac par le garçon. « Avez-vous du gigot braisé ?»« On vient, monsieur, de servir la dernière tranche à un Anglais. Il n'y a pas un quart d'heure. »« Une fricassée de poulet ?»« Les poulets sont bien durs, monsieur, dans cette saison. » Respectons leur dureté. Avez-vous des fricandeaux ? Nous n'en aurons, monsieur, qu'à 5 heures. Avez-vous du sphinx ? Demandai-je à mon tour avec impatience au fils de notre hôte. Du sphinx ? Je cours voir la cuisine, me répond-il. Vous en monterez pour 2, entendez-vous ?
Oui, monsieur.
Le garçon disparut. Balzac alors de me dire. Ai-je mal entendu ? Est-ce que vous ne lui avez pas demandé du sphinx ? Parbleu, vous avez bien entendu, vous vous obstinez à vouloir trouver à Saint-Cloud dans une cabane de pêcheurs un déjeuner parisien complet, avec entremets et pièces froides, c'est absolument comme si vous demandiez du sphinx. J'ai demandé du sphinx. Le garçon était remonté. D'un visage parfaitement convaincu, il nous dit du haut de la première marche de l'escalier « Monsieur, il n'y en a plus !» Je vois encore le visage de Balzac, comprimé d'abord par l'étonnement de cette réponse, se détendre tout à coup et atteindre aux proportions lunaires d'un épanouissement produit par une irrésistible hilarité. Il jette sa serviette en l'air, puis s'accoudant sur la table, il rit à faire trembler la cabane du pêcheur, à faire envoler les pigeons picorant sur les bords de la croisée. Tout rit autour de nous. Parquet, plafond, banc, banquette, assiette, couteau, fourchette de plomb, tout excepté le fils de l'aubergiste chez qui nous sommes. Il s'est pris complètement au sérieux et sa réponse est sincère. Son maître lui avait évidemment recommandé de toujours dire, quel que fût le mets désiré, « Il n'y en a plus !» et jamais « Il n'y en a pas !» Nous lui avions demandé du sphinx. « Il n'y en avait plus !» Balzac remplaça le sphinx par un morceau de fromage et quelques feuilles de salade arrosées d'une huile qui rappelait celle d'olive, mais de bien loin. L'huile d'olive à Saint-Cloud, autre sphinx. Au dessert, y avait-il un dessert ? Au café, probablement, il se mit en disposition de m'apprendre enfin dans quel but nous nous trouvions réunis à Saint-Cloud à une heure encore assez matinale. « Vous n'ignorez pas, me dit-il, que vers les premières années de la Restauration, Quelques hommes de lettres, d'une valeur que je ne discuterai pas ici, se détachèrent un jour de la fameuse société buvante et chantante du caveau et se reformèrent sournoisement dans des conditions plus ambitieuses, sous la dénomination de la Compagnie de la Fourchette. On sait aujourd'hui l'esprit et les résultats de cette association. Chacun des membres jurait, s'il entrait jamais à l'Académie française, d'employer tous ses efforts pour y faire entrer un confrère, à ne faire un choix académique que dans la Compagnie de la Fourchette. Au bout d'un certain nombre d'années, il devait arriver que tous finiraient par être de l'Académie, ce qui arriva. Le caveau entra en masse. Je ne pense pas, poursuivit Balzac, à recommencer la même tactique. On ne recommence rien dans ce monde avec les mêmes chances de succès. D'ailleurs, l'Académie ne m'émeut guère le cœur, on croit le contraire, on a tort. Si j'y arrive, tant mieux, sinon... Bon, mais je continue. Il continua ainsi. Je n'aime pas le journalisme, je dirais même que je l'exècre. C'est une force aveugle, sourde, méchante, insoumise, sans moralité, sans tradition, sans but. Il est comme les bouchers, il tue la nuit, pour manger le matin avec ce qu'il a tué. Mais, enfin, inclinons-nous, c'est une force, c'est la force du siècle. Cette force mène à tout, conduit à tous les points de la circonférence. C'est la seule, aujourd'hui, qui ait la puissance considérable de renverser, et par conséquent la puissance de remplacer ce qu'elle met par terre. Voyez ce que peuvent les débats, le constitutionnel, la presse, et même le siècle, dans des proportions différentes. Je défie le gouvernement de nommer un ministre, un receveur général ou particulier, un amiral ou un garde champêtre, sans se préoccuper peu ou prou de l'impression que produiront sur la peau de la presse ces diverses nominations. La royauté lui est subordonnée, Thiers règne et Bertin gouverne, quand ce n'est pas Bertin qui règne et Thiers qui gouverne, c'est Émile de Girardin en attendant que ce soit Louis Perret. Qu'est-ce donc que cela, si ce n'est le règne du journalisme ? Mais, continua de Balzac, j'ai l'air de vous apprendre, à vous, mon ami, qui avez été, qui êtes et qui serez probablement toujours un peu journaliste, les facultés formidables, inouïes du journalisme. Je vous écoute toujours. Bon, je continue donc. Ce fait d'expansion et de violence n'étant nié par personne, d'ailleurs nous crevant les yeux à tous tant que nous sommes, voici ce que je veux. Je veux que nous disposions, à notre gré, à notre profit, entendez-vous bien, de cette machine terrible pour placer nous et nos amis à tous les sommets productifs de l'art, de la science, de l'administration, de la politique. Je veux que, lorsque nous désignerons parmi nous un bibliothécaire, il soit nommé. Un député, il soit nommé. Un académicien, il soit nommé. Un professeur, il soit nommé. Mais ne m'interrompez pas. Que faut-il pour cela ? Avoir, dans chaque journal, quelle que soit son opinion, un membre de notre société. Un membre qui nous appuiera, nous défendra, qui fera prévaloir partout et toujours notre candidat. Et quand le gouvernement verra que ce candidat est soutenu par les lances de la presse, comme par les hallebardes de la quotidienne, par le fusil à rouet du journal des débats, comme par le mousquet du siècle, il faudra bien qu'il accepte notre choix ou le subisse. C'est ainsi que se gouverne le monde, croyez-le bien. Il fait semblant d'aller volontairement comme le cheval sous le cavalier, mais il obéit au frein, à l'éperon, à la cravache et aux genoux. Avez-vous, voyons maintenant, quelque objection à faire à ce colosse de Rhodes de projet ? J'en ai 15, 100 000 et une, répondis-je. Bon, dites-moi la dernière, repartit de Balzac, j'aurai probablement à vous faire grâce des 15, 100 000 autres. Où prendrez-vous, dis-je, ces journalistes sur la fraternité et le dévouement desquels vous pourrez compter ? Leur intérêt me répondra de leur dévouement. Je connais les journalistes mieux que vous, ils sont plus indolents encore qu'ambitieux. N'ayant rien à demander pour eux, ils ne se remueront guère quand il s'agira de solliciter pour les autres. Et votre société, dont je ne connais pas encore le nom, s'en ira en pur eau claire quand vous y poserez le pied pour vous élever. Vous vous trompez. Ah, voilà où vous vous trompez magnifiquement, s'écria Balzac, croyant avoir terrassé ma plus vivace objection. Ce ne sont rien que des ambitieux déguisés, vos journalistes. Celui qui écrit Le Fait Paris veut faire du feuilleton. Celui qui écrit Le Feuilleton veut traiter le grand article politique. Et celui qui écrit l'article politique veut devenir maître des requêtes, député, conseiller d'État, préfet et le reste. Sans doute, il y a un peu de vrai dans ce que vous dites là, mais le fond inerte que j'accuse reste le même. Le vrai journaliste n'est que journaliste. Il vit et meurt journaliste. Tenez-le pour certain. Hein. Je le tiens si peu pour certain que j'exécuterai mon projet d'association avec ou sans vous. Et que j'en pose la première pierre dès ce moment. Décidez, en êtes-vous, n'en êtes-vous pas? Dînera-t-on dans votre société? Dis-je à Balzac que je voyais profondément contrarié de s'être ouvert à quelqu'un si peu disposé à le suivre. « Mais comment, si l'on dînera? Mais une fois par semaine? On ne se rencontrera même qu'à l'occasion de ces dîners hebdomadaires, afin de ne promener aucun ombrage sur le front si délicat de nos concierges respectifs, trop étonnés peut-être de voir, à certains jours donnés, tant de gens à mine suspecte passer et repasser devant eux. Si l'on dînera !» Étendant ensuite ses bras sur moi, Balzac dit sacramentellement. « Je vous reçois, premier membre de notre société à venir. » Ceci dit, allons, tout en nous promenant au bord de la Seine, ajouta-t-il, songez au choix de journalistes qu'il nous faut faire pour former notre société. Nous quittâmes la table. En traversant la salle du restaurant, nous exprimâmes à notre cher hôte tous nos regrets de nous y être pris trop tard pour goûter de son sphinx, et nous nous dirigeâmes du côté de la Seine. Quelques minutes après, commençait entre de Balzac et moi un dialogue singulier, mais aux singularités duquel j'aurais dû franchement m'attendre si je m'étais un peu plus souvenu que les plus grands peintres du cœur humain, les plus fins analystes de nos faiblesses et de nos ridicules, sont les premiers souvent à passer de la situation de peintre à celle de modèle. Ainsi, je vis l'instant où de Balzac, forcé de faire un choix parmi les journalistes de l'époque pour arriver à la formation de sa liste de premiers membres fondateurs de sa société, car il fallait bien en venir là, n'en désignerait pas un seul, tant il les haïssait tous d'une haine aveugle, et n'établissait guère de différence entre le meilleur et le pire d'entre eux. À mesure que je lui en nommais un, de Balzac, au lieu de chercher le plus possible un motif de l'admettre, trouvait, inventait 20 motifs pour le rejeter dans l'abîme. Les choses se passèrent à peu près ainsi que nous allons les dire. « Ah, vous convient-il ? » C'est un hypocrite. « Quand nous nous rencontrons, il me serre la main et avec la sienne, il a écrit 3 abominables articles sur la physiologie du mariage. Ne me parlez pas de ce tartufe-là. » Laissons ce tartufe-là. « Que pensez-vous de B ?» Pique-pendre, c'est un courtisan et il dîne tous les jeudis chez B. Du moment où B dîne tous les jeudis chez B, c'est autre chose. Accepterez-vous C? Non, ne me demandez pas pourquoi. Je ne vous demanderai pas pourquoi. Accepterez-vous davantage D? Pas davantage. E, vous va-t-il? C'est un drôle. Il a osé dire qu'une vieille dame de mes amies, chez laquelle je vais passer quelquefois les mois d'automne à la campagne, m'a fourni les sujets de mes derniers romans. Infâme, drôle. Savez-vous que notre liste ne se remplit pas beaucoup jusqu'ici? Combien y a-t-il déjà de noms? Il n'y en a déjà aucun. Balzac pouffa de rire. Combien il est difficile, vous le voyez, de saisir un juste aux cheveux parmi cette spécialité malsaine, dit-il. Trions toujours. Trions? Mettrons-nous F sur notre liste? quoi? Oui et non, c'est un bon garçon sans doute, mais il n'a aucun talent sérieux. Quant à son tour, il voudra être quelque chose, qu'en ferons-nous? On le chargera d'une mission spécifique. Les missions scientifiques sont un bac qui va à tous les ânes. Il ira étudier l'influence des queues de morue sur les ondulations de l'océan au point de vue de la religion et des mœurs. Du reste, vous avez raison, c'est une bouche inutile. Rayon. Rayon, dit alors Balzac avec joie. Rayon. G, vous sourit-il? G est charmant, esprit fin, bon caractère. Il me conviendrait assez, mais il est si mal avec ses autres confrères que nous l'exposerions à être étranglés par eux si nous le mettions dans la société. Rejeté par humanité. Passons à H, dis-je en soupirant. Oui, passons vite. Ah. Et il ne vous agrée pas, celui-là non plus? Un jour, je vous dirai le tour de coquin qu'il m'a joué pendant que j'avais mon imprimerie. Du reste, il a tenu sur moi, dans la maison Béchet, des propos... Pas de hache. I me semble réunir de bonnes conditions pour figurer avantageusement sur notre liste. Oui, mais... Oui, celui-là me va assez. Enfin! Écrivez-le provisoirement, dit Balzac. Provisoirement, hein. Rien que provisoirement. Bref, il résulta qu'au bout d'une promenade de 2 heures au bord de la Seine, Balzac, tant son antipathie était plus forte chez lui que tout autre sentiment à l'endroit du journalisme, n'avait pu, sur 9 noms d'ailleurs déjà choisis par moi-même mentalement en les lui présentant, n'en accepter qu'un seul, et encore, n'était-ce que provisoirement. Cependant, comme il était dans la destinée de cette amusante idée de Balzac de briser l'enveloppe et de s'épanouir au jour pour la plus grande joie de son inventeur, la fameuse société d'assistance mutuelle se recruta définitivement des noms que nous allons dire. On verra avec orgueil que si le choix avait été laborieux, il venait du moins largement récompensé des difficultés affrontées et enfin vaincues. Balzac, qui voulait du mystère à la naissance de sa création favorite, indiqua à ses premiers affiliés, pour lieu du premier rendez-vous, le Jardin des Plantes, où ils se rencontrèrent en effet un samedi vers 4 heures, par un temps magnifique, grande allée du muséum. Et c'est de là qu'on partirait ensuite pour aller dîner à un restaurant indéchiffrable, pareillement découvert par Balzac à quelque distance du Jardin des Plantes. Il en sera question dans un instant. Du fond de la grande allée du Jardin des Plantes et par les allées aboutissantes, on vit bientôt s'avancer, à la manière des conspirateurs de l'ambigu comique, Granier de Cassagnac, puis Théophile Gautier, puis Louis Desnoyers, puis Eugène Guinaud, puis Alphonse Karr, puis Témerle, puis Altaroche, puis Balzac, puis moi, homme de lettres un peu bien étonné de se trouver ensemble, surtout dans le but fraternel que j'ai suffisamment précisé plus haut. Mais Balzac était vraiment le grand prêtre né de ces mariages impossibles. Les politesses d'usage accomplies, on se prit avec une intimité un peu jeune sous le bras les uns des autres et l'on suivit Balzac. Balzac, plein d'aise et d'enchantement, sortit du Jardin des Plantes, descendit le quai au vin en longeant l'entrepôt et quand il fut entre la rue des Fossés Saint-Bernard et la rue de Poissy, presque en face du pont de la Tournelle, il nous dit « Messieurs, c'est ici !» Quel impossible endroit avait-il donc choisi pour l'accomplissement de notre premier repas de corps ? Je ne voyais où nous étions arrêtés, ni ombre de restaurant, ni profil de café, mais quelque chose d'effacé, de bâtard, comme la boutique d'un marchand de vin de la banlieue. Je levai la tête pour découvrir quelques signes indicateurs qui m'instruisit mieux que notre impénétrable guide. Je n'aperçus qu'une informe enseigne, perdue à la hauteur du second étage d'une étroite maison, faisant avec le mur où elle s'accrochait un angle d'inclinaison assez périlleux. Sur cette enseigne, qui du reste est peut-être encore à la même place, je distinguai un énorme cheval de roulier, peint en rouge, dressé sur ses jambes de derrière, beau d'encolure, fougueux de crinière, et laissant lire sous ses sabots ces mots, qu'on a déjà lus pour peu qu'on ait traversé l'une de nos 34 000 poudreuses communes de France, « Au cheval rouge ». Nous étions donc au cheval rouge. Balzac nous avait conduits à l'auberge du Cheval Rouge, il avait fait préparer notre dîner d'initiation et d'inauguration au Cheval Rouge, nous allions enfin nous mettre sous les auspices du Cheval Rouge. Ce n'est pas sans motif que je répète 4 fois ici cette indication peinte à l'huile grasse, le Cheval Rouge. La société fondée par Balzac, dans l'intention que l'on sait aussi bien que moi maintenant, devait prendre, et elle prit en effet, le titre de la société du Cheval Rouge. Le salon, ou plutôt la salle où nous entrâmes, répondait à la vulgarité brutale de l'enseigne. C'était un hangar au fond d'une cour, entre un puits et un magasin de futailles vides. Les chevaux rouges dînèrent assez mal ce premier jour-là. Toutefois, l'enthousiasme et les vins firent bravement passer sur la médiocrité des mets. Il faut s'entendre sur le mot « enthousiasme », que j'écris ici avec une facilité peut-être un peu grande. Il y eut de la roideur sous l'entraînement. Bien d'enseignes fibres ennemies résistèrent quand il fallut les enlacer à la guirlande amicale que Balzac entreprenait de former. Ainsi, le charivari, dans la personne de son principal représentant, n'avait jamais brûlé un encens bien vif au pied de la renommée de Balzac. Alphonse Karr et Balzac ne se seraient pas mutuellement jetés dans les flots pour se sauver. Moi-même, je n'avais pas une tendresse égale pour tous mes confrères d'écurie. J'avais reçu autrefois plus d'un froissement que j'avais à mon tour rendu avec quelque largesse. Or, tous ces coudoiements, toutes ces taloches littéraires, toutes ces gourmades d'un passé qui n'était pas bien vieux revenaient quelquefois à la surface. Si les sourires se faisaient doux, si les vers se choquaient bruyamment entre eux, si l'esprit de celui-ci fraternisait avec l'esprit de celui-là, la sincérité antique n'était pas le fond de ce tableau.
De temps en temps, des silences moqueurs couraient sur la toile. Un seul écrivain, un seul parmi tous ses convives d'origines diverses, réunissait les sympathies de tous et nous aimait tous. C'était le bon, l'excellent, le spirituel rédacteur de La Quotidienne, T. Merle. Merle, au visage si noble et si beau, à la mémoire intarissable, fleurie de toutes sortes de fleurs, comme les campagnes de ce beau midi dont il était, représentait véritablement au milieu de nous le type de la Concorde. Notre supérieur par l'âge, Merle, l'était encore non par la notoriété littéraire, quoiqu'il eût la sienne bien réelle, bien incontestée, mais par le mérite d'une exquise conversation, par une connaissance délicate de tous les personnages et de toutes les choses marquantes de son temps. Il avait retenu du XVIIIe siècle l'ironie voltairienne, moins la sécheresse de l'athéisme. Le fanatisme de la royauté ne s'alliait pas chez lui à l'esprit de violence de 1815 et du drapeau blanc. Il racontait comme Désaugiers chantait, il plaisantait comme Louis XVIII plaisantait, et il comptait au moins autant de bonne fortune que le brillant Lauzun, qui n'eut jamais à coup sûr ni la rare perfection de corps, ni la radieuse beauté de visage de notre cher et regrettable Merle. Il n'avait qu'un défaut, mais ce défaut était grand, très grand pour nous, car il le rendait tout à fait inutile à la société du Cheval Rouge, où, à la vérité, nous ne l'avions pas introduit sans violence. Merle n'avait pas le plus léger grain d'ambition sous la peau. Il n'était rien, n'avait jamais voulu rien être, et il ne voulait rien devenir. « Je vous servirai tant que vous voudrez, tant que je pourrai, disait-il, mais je vous en prie, ne vous occupez pas de moi !» L'éloquence de Balzac obtint pourtant de Merle qu'il accepterait une place de bibliothécaire. Nous promîmes tous de travailler à la réalisation de l'engagement pris par Balzac. Ce qu'il accepta pareillement, ce fut de commander nos dîners hebdomadaires et de veiller à leur parfaite ordonnance. À cet égard, la violence exercée sur lui fut beaucoup moins sensible. Merle était une fourchette d'or tombée du ciel. Personne depuis Néron, depuis Lucullus, depuis Grimaud de la Reynière, personne n'a su manger comme lui. Quoiqu'il donna un peu trop dans les salaisons du midi. Rougemont, Brasier et lui, trois géants par la taille et par l'estomac, ont laissé d'impérissables souvenirs gastronomiques aux vendanges de Bourgogne, aux cadrans bleus chez Baleine et aux rochers de Cancale. Ils ont bien vécu. Revenons au dîner du Cheval Rouge. On lut au dessert les statuts de la société, qui pouvaient se résumer en ceci : chacun sera à tous et tous seront à chacun. On convint aussi que rien ne serait jamais écrit touchant la composition et le but de la société du Cheval Rouge. Il fut pareillement arrêté qu'on reviendrait dîner au même restaurant 8 jours après le premier banquet, ce qui eut lieu, mais on se lassa bientôt de cette course insensée au pont de la Tournelle. Nous changeâmes d'auberge sans toutefois changer d'enseigne. Le Cheval Rouge alla, quelques semaines après son inauguration, dîner aux Vendanges de Bourgogne, vaste et historique restaurant qu'il faut un peu rappeler à la génération présente. Elle en eut entendu parler sans doute, mais elle ne l'a pas vu se développer sur une ligne vraiment monumentale au bord du canal Saint-Martin, à l'entrée du faubourg du Temple. Là, les dîners, sans être plus chers, quoiqu'ils le fussent encore beaucoup, étaient meilleurs qu'au Cheval Rouge. Nous changeâmes plusieurs fois encore de réfectoire. Ce n'est pas tout à fait le mieux que nous poursuivions dans ces nombreux déplacements. Balzac avait peur qu'une trop longue fréquentation dans un même restaurant ne révélât aux garçons, des garçons aux maîtres et des garçons et des maîtres à tout le monde, l'existence de notre société. Sa terreur était amusante à cet endroit. Que produisit, en fin de compte, cette fameuse société du Cheval Rouge, au bout de plusieurs années d'existence ? Beaucoup de dîners, beaucoup d'articles écrits dans les journaux pour Balzac, sur Balzac, à l'éloge de Balzac, lequel Balzac n'écrivit rien du tout sur ses confrères chevaux rouges, et elle ne conféra pas le moindre emploi, elle ne rapporta pas le moindre avantage aux autres membres. Balzac seul y avait cru beaucoup, Balzac seul en profita. Quant à Granier de Cassagnac, à Louis Desnoyers, à Alphonse Carr, à Altaroche, à Merle, lequel, fatigué d'espérer, alla attendre sa bibliothèque dans un monde meilleur, ils n'eurent jamais une foi bien robuste dans l'association du Cheval Rouge, dont l'enseigne seule, bravant les temps, les révolutions, l'humidité de la Seine, la sécheresse des étés, piaffe encore, je suppose, et éclabousse du rouge au regard charmé de ceux qui vont du pont de la Tournelle au jardin des Plantes.